Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Au fil des pages. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Simone Berthière qui vient nous présenter son dernier ouvrage intitulé « Dumas et les mousquetaires, histoire d'un chef-d'œuvre » publié aux éditions de Fallois. Simone Berthière, bonjour.
Bonjour et merci à vous de m'avoir invitée.
C'est toujours un plaisir. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historienne. Vos 6 volumes relatifs à la condition des reines de France des temps modernes font référence, sans oublier votre biographie du cardinal de Retz et de celle de Mazarin, que vous étiez d'ailleurs venu présenter au micro de Canal Académie. Je précise d'ailleurs que cette émission est toujours disponible à l'écoute dans notre médiathèque. Mais revenons à votre dernier bébé, si j'ose dire, Dumas et les mousquetaires. Vous retracez dans ce livre l'itinéraire qui conduit Dumas à écrire les 3 mousquetaires et vous essayez de comprendre en quoi ce roman, parmi la très nombreuse production d'Alexandre Dumas, sort du lot finalement. Mais ce livre est très différent des autres livres que vous avez écrits. Comment vous en est venue l'idée ?
Écoutez, d'abord, vous m'avez présenté comme historienne, vous n'avez pas tort dans la mesure où toute ma carrière d'écrivain se déroule dans le domaine de l'histoire. Mais moi, j'ai enseigné quand même la littérature pendant 40 ans. Hein. Bon, donc, en somme, c'est un retour à mes premiers amours, c'est un retour aux sources. Et d'où vient le livre ? Eh bien, j'avais été invitée à écrire l'introduction et les notes des 3 volumes de Mousquetaires pour le livre de poche. Et mon éditeur me disait qu'il y avait tout de même la matière à faire davantage. Il rêvait d'en tirer une petite plaquette, enfin quelque chose. Et finalement, je me suis mise au travail et autour de ce noyau premier, j'ai fini par construire un petit livre parce que je me suis rendu compte que Les 3 Mousquetaires est un ouvrage tardif dans la vie de Dumas et qu'il dépend très étroitement de tout ce qui a précédé.
À vous lire, on perçoit surtout à quel point les œuvres de Dumas et donc les 3 mousquetaires sont liées à sa vie. Nous allons donc retracer ensemble son itinéraire et tout d'abord, comment entre-t-il dans la carrière littéraire ?
Et oui, alors Dumas n'a pas le sou. Hein. Il est le fils d'un général républicain, mais qui a quitté l'armée très tôt et qui est mort prématurément. Et ce fils était d'ailleurs un mulâtre, c'est-à-dire fils d'un noble décavé à Saint-Domingue et de sa maîtresse noire. Le grand-père s'appelait David la Payetterie et la grand-mère s'appelait tout simplement Marie Cécette Dumas. Donc, en prenant le nom de sa grand-mère, c'est déjà une déclaration politique, si vous voulez. Donc, la mère de Dumas est veuve, c'est la fille d'un aubergiste de Villers-Cotterêts, mais ils n'ont pas le sou. Mais il est très heureux parce qu'il est soutenu finalement par toute une famille dans une petite ville de province, vous voyez. Il y a des cousins, bref. Il mène une vie, au fond, assez libre. Il fait beaucoup l'école buissonnière. Et on le case, quand il faut vraiment gagner sa vie, comme saute-ruisseau chez un notaire. Puis, il veut aller à Paris et le voilà propulsé comme gratte-papier surnuméraire dans les bureaux du duc d'Orléans, c'est-à-dire du futur Louis-Philippe. Bon. Alors, sa vocation première, c'est le théâtre. Il a assisté à des représentations, il est fou de théâtre et il se veut dramaturge. Mais il est extrêmement obstiné. Hein. Il a l'air désordonné, fou, une sorte de chien fou, si vous voulez, jeune. Mais il veut être un grand écrivain.
Et il va y arriver assez vite même. On est étonné de la rapidité à laquelle tout se passe.
Alors, si vous voulez, les choses vont vite à cette période-là parce que la Révolution et l'Empire ont quand même taillé une grande coupe dans la génération précédente. Donc, il y a des places. Et d'autre part, on est en pleine Révolution dans la mesure où, enfin, non seulement politique, ça va venir en 1830, mais littéraire, dans la mesure où tous les genres littéraires qui étaient en vogue avant la Révolution apparaissent comme vieillis, désuet, enfin insupportable. Donc, il veut se lancer finalement dans le théâtre et à l'ordre du jour, il y a le drame romantique. Alors, la comédie française est le bastion des classiques et il s'agit finalement de conquérir cette Bastille, si j'ose dire.
Et il va y arriver rapidement.
Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est le premier. Hugo a écrit un Cromwell accompagné d'une célèbre préface où il fait la théorie du drame romantique, mais la pièce n'est pas jouable. Il n'a jamais prétendu la faire paraître sur scène. Dumas, lui, écrit, selon les principes plus ou moins romantiques, enfin, une pièce qui s'appelle Henri III et sa cour. Les Hardiès ne sont pas extraordinaires. La pièce est quand même en vers. Il commence par une Christine aussi, qui n'est pas jouée tout de suite. C'est en vers. Ça respecte en gros les unités. Enfin bref, il y a tout un aspect classique. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on montre les passions, des passions déchaînées, et qu'au lieu d'envoyer dans la coulisse tout ce qu'on ne doit pas voir, selon Boileau, n'est-ce pas ? Eh bien, on montre la violence sur la scène. Alors, il faut du sang, des meurtres, des pressions exercées par le mari jaloux sur sa femme, enfin, tout ce que vous voulez de romantique, frénétique.
Et ça marche.
Et alors, ça marche. C'est-à-dire que Henri III et sa cour de Dumas est joué en 1829, c'est-à-dire un an avant Hernani. Ouais. Et il remporte un triomphe. Alors, ensuite, tous les romantiques s'appuient les uns les autres. Dumas n'est pas le dernier à aider au triomphe d'Hernani et finalement le drame romantique l'emporte. Alors Dumas tout d'un coup, qui était complètement obscur, ignoré et sans le sou, devient célèbre et riche et ça lui tourne un peu la tête.
Ça lui tourne un peu la tête et la tête tourne facilement, je dirais, puisque l'année suivante, c'est la révolution de 1830. Va-t-elle bouleverser la vie d'Alexandre Dumas ?
Elle bouleverse sa vie en partie. Il se veut républicain. Il rêve d'une république, selon son cœur, qui n'est pas absolument conforme à celle que les militants républicains préconisent. Mais il quitte Louis-Philippe, le duc d'Orléans, dès que le duc d'Orléans devient Louis-Philippe, parce qu'il ne peut plus quand même être... il a été promu bibliothécaire, il ne peut plus être à son service. Il y perdrait sa liberté et il gênerait Louis-Philippe. Donc, le résultat le plus important pour lui, c'est qu'il faut vivre de sa plume.
Et il y arrive, puisque peu de temps après, une autre pièce de théâtre connaît un grand succès. Anthony.
Oui. Et alors du coup, il bascule à ce moment-là dans le drame moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de sujets historiques. C'est un drame contemporain, là aussi avec des passions violentes, avec un dénouement tragique et un langage qui est proche de la vie de tous les jours. Et là aussi, c'est un triomphe.
Donc Dumas a à peine 30 ans. Et tout le monde le connaît, il arrive à vivre de sa plume.
Non seulement il vit de sa plume, mais il nage dans l'argent.
Il nage dans l'argent, même si ça s'évapore très rapidement.
C'est-à-dire que, si vous voulez, il calcule son budget en fonction des rentrées à venir et il anticipe généreusement. Alors, effectivement, quand petit à petit le drame se met à passer de mode, il s'aperçoit qu'il faut réduire son niveau de vie ou trouver d'autres ressources. Or, ça va vite. J'ai l'impression que le drame romantique a usé toutes ses dernières cartouches. Il est allé trop loin, trop vite. De sorte que, à force de montrer toujours les mêmes drames, les mêmes crimes, les mêmes horreurs, le public s'est lassé et il faut vraiment se renouveler.
Et c'est ce qui va amener la reconversion, finalement, d'Alexandre Dumas vers le roman historique.
Voilà. Alors, il va se reconvertir vers le roman, mais d'abord, il a un mépris écrasant pour le roman historique. Ah oui. Le roman historique défigure l'histoire, trahit la vérité, dit-il. À vrai dire, dans ses drames, quand il a un sujet historique, il la trahissait abondamment, l'histoire. Ah oui, il m'a même dit que l'histoire, c'était simplement un clou où accrocher son tableau, l'essentiel étant la peinture des passions modernes, ou alors, à la rigueur, un cadre pour son tableau, mais rien de plus. Il l'a vraiment beaucoup malmené. Mais je pense qu'il refuse le roman historique parce que c'est un genre mineur. Les grands genres, c'est la poésie. Là, il a essayé, mais il a compris vite qu'il n'était pas doué pour la poésie lyrique. C'est le théâtre, et puis c'est l'histoire avec un grand H. Alors, il essaye aussi de faire l'histoire dans le genre évolution de l'humanité, vous savez. Il essaye, ça ne dure pas très longtemps.
Oui, vous dites à un moment que Dumas est tout sauf un homme de théorie, d'ailleurs.
Oui.
Aussi bien au niveau de l'histoire, comme vous le dites, mais de la politique, comme on le verra par
Alors,
la suite.
Voilà. Alors, en plus, ce que la révolution de 1830 a changé pour lui, c'est qu'il s'est cru un avenir politique. Et Louis-Philippe lui a ri au nez, ou à peu près. Vous êtes poète, faites de la poésie. Il l'a mal pris. Mais c'est vrai qu'il n'est pas doué pour la politique. Oh non, non. Mais donc, il veut quand même participer à l'instruction du peuple. Enfin, c'est une idée qui court chez lui, mais qui n'arrive jamais à mettre vraiment en pratique, précisément parce qu'il faut vivre et que ce qui rapporte, alors tout d'un coup, en 1836, c'est le roman, historique de préférence, mais surtout sous sa forme tout à fait nouvelle, c'est-à-dire le roman feuilleton.
Voilà, puisque c'est l'explosion de la presse à grand tirage.
Oui.
Eugène Sue va ouvrir la voie et va montrer à Dumas toutes les possibilités que cette nouvelle presse présente.
Voilà, alors le roman feuilleton est inventé en 1836 par Émile de Girardin, qui a tout simplement l'idée de faire financer la fabrication du journal par la publicité. Donc il y a des petites annonces à la fin. Et pour fidéliser les lecteurs, l'idée c'est de mettre un récit en bas de page, au rez-de-chaussée. Et naturellement, un récit débité en tranches suffisamment alléchante, pleine de péripéties, pour appeler l'achat du numéro suivant. Ce n'est pas le Girardin qui a inventé la formule, c'est un concurrent, le docteur Véron, la suite au prochain numéro. Alors, il y a 4 journaux qui se ruent sur ce créneau, et c'est Eugène Sue qui, avec les Mystères de Paris, remporte alors un triomphe extraordinaire. Toute la France lit les Mystères de Paris, depuis les gens du peuple qui se les font lire quand ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, jusqu'au Premier ministre qui, paraît-il, demandait chaque matin en arrivant ce qui était arrivé à Fleur de Marie dans le dernier numéro. Alors, Dumas, du coup, comprend que, genre méprisable ou pas, le roman historique est quand même une source de revenus tout à fait remarquable. Donc, il s'y met lui-même.
Il s'y met lui-même, mais accompagné.
Voilà, alors il avait commencé à faire, si vous voulez, pour Dumas, la forme courte lui est familière, un drame. Alors un épisode resserré, des personnages qu'on ne connaît ni avant ni après, qui sont plongés simplement dans un événement crucial. Bon, et il hésite à faire long. Il commence par écrire des scènes historiques, c'est-à-dire, au fond, des mini-romans historiques, mais conçus comme des drames. Simplement, c'est lui qui joue le régisseur, il met les décors, les costumes, enfin, tout le nécessaire. Mais il n'ose pas faire plus long. Et c'est finalement le nommé Auguste Maquet, celui qu'on appelle son nègre, il faut bien appeler la fonction par son nom, qu'il lui permet de passer à la forme longue. Alors, Auguste Maquet était professeur d'histoire, mais qui était chatouillé par des ambitions littéraires. Et Dumas avait été amené à retaper une pièce de lui pour la rendre jouable, puis un récit dont il avait tiré un roman publiable. Et il engage finalement Auguste Maquet comme collaborateur.
Leur collaboration va d'ailleurs très bien fonctionner.
Oui, alors il faut préciser, parce que si vous voulez, sous le mot nègre, on met des tas de choses. Il ne s'agit pas du tout de quelqu'un qui se substitue, par exemple, à un personnage du show business ou de la politique pour écrire à sa place et le laisser signer à la fin. Ce n'est pas ça. C'est vraiment, au départ, un documentaliste. Seulement, très vite, Dumas lui demande beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il partage la rédaction, le travail de rédaction. Alors, ils se mettent ensemble pour concevoir le plan. Ils en font d'ailleurs en plusieurs bottes de plans successives. C'est le mot de botte et de Dumas. On va se réunir pour faire une bonne botte de plans. Donc, ils savent où ils vont. L'ensemble du récit est construit, en général, par conversation, par dialogue. Et alors, ils se partagent la rédaction des chapitres, Dumas laissant à Maquet tous les exposés historiques indispensables à l'intelligence de l'affaire. Et lui-même garde naturellement les dialogues. C'est un dialoguiste éblouissant. Il se communique constamment l'état de leur travail, mais Dumas garde très fermement en main les deux extrémités de la chaîne. C'est-à-dire, au départ, c'est lui qui choisit le sujet et qui organise la matière, qui prévoit le déroulement et sait où il va. Et d'autre part, il tient l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire que Maquet lui envoie tous ses textes et qu'il les revoit avant de les livrer aux journaux. Et tantôt il abrège, tantôt il allonge, enfin, tout dépend des circonstances. Et il ajoute du relief et il ajoute de l'humour. Maquet n'en a pas beaucoup, semble-t-il.
D'ailleurs, vous insistez sur le fait qu'on ne peut pas, du coup, contester à Dumas la paternité de ses œuvres.
Alors, ben, la question s'est posée. Vous savez qu'il va sortir un film là-dessus. Le film est annoncé pour la sortie pour le 10 février. Il est déjà tourné, il est au montage. Il traite des relations entre Dumas et Maquet. Et il s'appellera L'autre Dumas. Et dans les rôles principaux, vous avez Depardieu en Dumas et Benoît Pelvoorde en Maquet. Voilà. Alors, je ne l'ai pas vu encore le film. En principe, je dois le voir lundi prochain. Bon, écoutez, je n'en pense rien. Mais j'ai une idée très précise de la manière dont les choses ont évolué. Maquet a d'abord été très flatté de travailler aux côtés du grand homme. Bon, et il y avait des relations amicales entre eux. Amicales, mais sous la forme paternaliste, si vous voulez. Et puis, petit à petit, Maquet a pris de plus en plus d'importance. Et surtout, alors est arrivée une autre révolution, c'est-à-dire celle de 48. Et en 48, alors, Dumas a voulu faire de la politique. Donc, le troisième volume des Mousquetaires, le Vicomte de Bragelonne, était à peine commencé. Et voilà Dumas qui se lance dans des campagnes électorales. Il veut être élu à l'Assemblée constituante et il laisse la bride sur le cou à Maquet. Donc le résultat, c'est que Maquet en a fait beaucoup plus, que ça a traîné longuement, que les éditeurs se sont exaspérés parce que le livre n'en finissait plus et qu'ils ont passé par-dessus la tête de Dumas en demandant à Maquet, écoutez, tuez-les parce que le lecteur en a assez, nous aussi, il faut terminer ce livre. Et donc la situation s'est gâtée entre eux. Et il y a eu ensuite des procès. Dumas, qui continuait à dépenser beaucoup, était ruiné par la révolution de 48. Et Maquet l'a attaqué en justice pour réclamer son dû. Mais il réclamait non seulement son dû financier, mais il réclamait la co-signature. Et le tribunal, ça s'est joué tard, en 1858, le tribunal a accordé à Maquet 25% des droits sur les livres écrits ensemble. Mais il a refusé de partager la propriété littéraire, c'est-à-dire la réputation à laquelle Maquet tenait passionnément. Mais Dumas n'a jamais voulu lâcher.
En tout cas, leur premier roman historique ensemble, oui. Et les Trois Mousquetaires, comme vous dites, pour un Galodécé, c'était un grand succès. Mais c'est ce que nous verrons avec vous après une courte pause.
1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Pékin. C'est le titre de l'ouvrage de Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il dresse une analyse de l'évolution des relations internationales, 20 ans de transition pour comprendre les fondements du siècle qui s'ouvre. 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde, de Berlin à Pékin, une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Nous sommes toujours avec Simone Berthière pour évoquer Dumas et les Mousquetaires. Après avoir vu comment les circonstances ont poussé Alexandre Dumas vers le roman historique, essayons de percer les secrets des Trois Mousquetaires. D'où sortent ces Trois Mousquetaires qui, en réalité, sont quatre, d'ailleurs.
Oui. Alors, ces Trois Mousquetaires sortent d'un livre. Alors, vraiment, Dumas a eu une chance extraordinaire. Et il lui est tombé du ciel, si j'ose dire, un livre qui a été le déclic. Il a emprunté à la bibliothèque de Marseille les mémoires de D'Artagnan pour meubler le voyage du retour sur Paris. Ce sont des pseudo-mémoires écrits à la fin du XVIIe siècle par un nommé Courtil de Sandras, qui était un professionnel du genre. Mais alors, les Trois Mousquetaires lui offrent des personnages. Et ça change, si vous voulez, des scènes historiques ou des... Autrefois, qu'est-ce qu'il demandait à l'histoire, d'habitude ? Il demandait des situations, des épisodes dramatiques. Et les personnages ne l'intéressaient que dans la mesure où ils jouaient un rôle dans ces situations dramatiques. Là, ce sont des personnages à qui il s'intéresse individuellement, jusque dans leur vie quotidienne. Il y a toute une partie du livre qui est consacrée à leurs problèmes de logement, de nourriture, d'équipement. Et Dumas reproduit d'ailleurs, enfin il imite ce type de développement dans son roman. Donc ce sont des personnages, alors, et des personnages très attachants. Et en particulier, D'Artagnan, tel qu'il est présenté dans le livre de Courtil, est au fond une sorte de double de Dumas lui-même. C'est-à-dire un jeune homme pauvre qui débarque de sa province. D'Artagnan arrive de Gascogne, Dumas de Villers-Cotterêts, c'est moins loin, mais c'est la même chose. Ils arrivent avec un tout petit peu d'argent en poche et une lettre de recommandation pour essayer de faire leur trou à Paris. Donc, D'Artagnan devient très vite pour Dumas une sorte d'alter ego, de double. Et alors, ce qui se passe, c'est que dans les romans historiques, dans d'autres, il écrit la reine Margot en même temps. La reine Margot, c'est de l'histoire romancée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage inventé, fictif. Ce sont des personnages historiques. Bon, Dumas romance, naturellement. Il en rajoute beaucoup, il triche avec l'histoire. Mais ce sont des personnages connus. On ne peut pas leur faire faire n'importe quoi, quand même. Tandis qu'avec les Mousquetaires, vous avez une autre formule de roman historique, à laquelle Dumas, d'ailleurs, se tiendra par la suite. C'est la formule que j'appelle mixte, vous avez des personnages historiques à qui il arrive des aventures, mais vous avez en même temps les mousquetaires qui sont des personnages fictifs ou semi-fictifs. D'Artagnan, moins on en sait sur eux, plus ils sont bons pour Dumas. Donc, vous avez des personnages fictifs ou semi-fictifs qui mènent en parallèle leurs aventures propres. Et l'attention du lecteur est concentrée sur eux. C'est à eux qu'on s'intéresse. Bon, on est bien content que Anne d'Autriche récupère ses ferrets, mais surtout parce que c'est D'Artagnan qui les a récupérés. Et à la fin, bon, mon Dieu, ils échouent à la fin. Ils n'arrivent pas à soustraire Charles Ier à l'échafaud. Mais en revanche, leur combat personnel contre Milady, qui est une femme satanique redoutable, ben, ce combat-là, ils le gagnent. 20 ans après le roman suivant, c'est la même chose. Milady est morte, ils l'ont exécutée, ils l'ont fait décapiter par le bourreau à la fin des Trois Mousquetaires. La scène est extraordinaire. 20 ans après, ils ont affaire à son fils, qui est encore plus diabolique qu'elle. C'est un personnage vraiment satanique. Et tout le reste de l'intrigue proprement historique passe au second plan pour le lecteur, en face du combat qu'il mène contre le fameux Mordant.
Alors que l'équilibre sera un peu différent dans encore la suite, la troisième partie, que sera le Vicomte de Bragelonne.
Voilà, alors dans le Vicomte de Bragelonne, eh bien, Dumas, au fond, se laisse piéger par la chronique. Il cherche toujours un ancrage dans l'histoire. Ça a été 20 ans après d'abord. Là, c'est 10 ans ou 11 ans après. C'est la prise du pouvoir par Louis XIV à la mort de Mazarin. Mais il y a trop d'histoires. Et les mousquetaires ont vieilli. Le jeune vicomte de Bragelonne, le fils d'Athos, bon, il est gentil, mais ce n'est pas un mousquetaire. Bon, il donne des verges pour se faire battre. Bon, il ne fait pas le poids. Et alors, finalement, Dumas se laisse prendre à l'histoire. Il y a le personnage du surintendant Fouquet. Il y a ensuite, alors, pour corser l'affaire, il y a le masque de fer. Bon, celui-là, il est anonyme, mais archi connu, et on ne peut pas non plus en faire n'importe quoi. Alors, c'est très étrange parce que dans le Vicomte de Bragelonne, Dumas a conscience qu'il se fait piéger par la chronique, qu'à force de raconter les amours d'Henriette d'Angleterre, de Louis XIV, de Louise de la Vallière, tous ces personnages-là, il commence à ennuyer le lecteur. Il passe à Fouquet, c'est passionnant, mais tout d'un coup, on dirait qu'il rejette alors la chronique, l'histoire. Il y a une sorte de sursaut de rupture et il plonge alors dans l'invraisemblance complète. Il plonge dans une sorte d'univers épique extraordinaire. C'est le moment où Aramis, qui devient une sorte de démiurge, est allé exhumer un prétendu fils jumeau de Louis XIV et il essaye de le substituer à Louis XIV sur le trône. Alors là, bon, adieu la vraisemblance. Enfin, mais nous marchons quand même parce que ça rappelle des très grands mythes. Il y a tous les mythes tournant autour des jumeaux, de la rivalité entre des jumeaux autour pour un trône qui joue en arrière-plan. Enfin, c'est du délire. Et finalement, à la fin, il faut bien rejoindre la terre et se débarrasser des mousquetaires. Il faut les tuer. Je vous disais tout à l'heure que les éditeurs l'exigeaient. Donc, Athos, le jeune Bragelonne meurt. C'est très triste, très mélancolique, la fin de Bragelonne. Le jeune homme est mort de chagrin parce que Louis XIV lui a volé Louise de la Vallière. Son père meurt de chagrin en le voyant disparaître. Et alors, il y a la mort de Porthos, qui est un morceau d'anthologie. Porthos, il meurt comme Samson, sous la voûte de rocher qu'il écrase. Personne ne peut le vaincre. Et puis, Dumas ne voulait pas tuer D'Artagnan. Donc, c'est Maquet qui s'en est chargé. Mais Dumas entérine.
Alors, la reconversion de Dumas en écrivain est une grande réussite.
Mais oui, c'est une très grande réussite, mais parce que Dumas se laisse aller finalement à un don qu'il réprimait au temps du romantisme flamboyant, c'est-à-dire son don de conteur et sa gaieté et sa verve.
Mais il n'en a pas pour autant abandonné le théâtre, ce qui le coulera par certains côtés.
Oui, après 1848, bon, c'est fini, il se survit, si vous voulez. Mais c'est un conteur extraordinaire.
Donc, on apprend plein de choses dans votre ouvrage sur Dumas. Entre autres, on a l'impression qu'il a toujours été à la quête de respectabilité. Et donc, à la fin de sa vie, donc il y a toute la partie de la déchéance, enfin pas de la déchéance, mais donc 1848, il va le perdre beaucoup.
C'est la fin de sa carrière et la fin de son ascension sociale.
Et après, il va vouloir justifier son œuvre et dire que sa trilogie des Trois Mousquetaires, enfin Trois Mousquetaires, 20 ans après, et du Vicomte de Bragelonne, était la condition humaine du passé. Il est en quête toujours d'une respectabilité.
Disons, et pas seulement, d'ailleurs, pas seulement les Mousquetaires, il y a les trois romans Renaissance et les quatre romans Révolution française. Il essaye de donner à ces grands romans le statut de grandes œuvres, si vous voulez, en expliquant qu'il a voulu apprendre l'histoire de France aux Français. Et donc que l'instruction passait pour lui avant l'amusement. L'amusement était le moyen d'instruire. Il explique longuement tout cela.
Mais et vous dites que c'était surtout des romans d'éducation.
Oui, des romans. Ben, alors, ce sont des romans d'éducation, mais c'est pas du tout parce qu'il avait. Ça répond pas du tout à l'intention d'enseigner l'histoire. Ce sont des romans d'éducation parce qu'il prend des personnages et qu'il les plonge dans la vie et que ces personnages, confrontés à toute une série d'épreuves, en sortent différents, deviennent des hommes et deviennent aussi des vieillards dans Bragelonne. Donc les derniers livres ressemblent beaucoup finalement à l'éducation sentimentale, enfin, avec des prolongements sur le plan surnaturel vers l'épopée que Flaubert ne se permet pas. Mais c'est comme chez Balzac aussi, c'est l'histoire d'hommes qui perdent petit à petit leurs illusions avec l'âge.
Vous vouliez préciser quelque chose, vous soulignez tout à l'heure le talent de conteur de Dumas, qu'il avait dès le départ d'ailleurs.
Alors, je voulais dire que, à mon avis, le secret des Mousquetaires, en particulier du premier volume, tout le monde le connaît. Si on en a lu un, c'est celui-là. Certains même croient que Dumas est l'homme d'un seul livre. Et les Trois Mousquetaires ont fait le tour du monde et ils continuent de le faire le tour du monde. Et des gens continuent de s'en inspirer et d'écrire d'autres épisodes dans les marges des Trois Mousquetaires. Alors pourquoi ? Je pense que le vrai secret de Dumas, c'est celui-ci. Il l'a dit à un moment. Il dit « Moi, je prends mes sujets dans mes rêves ». Mon fils, le fils est devenu dramaturge à la fin.
Il va entrer à l'Académie française.
Mon fils prend les siens dans la réalité. Moi, je travaille les yeux fermés, lui travaille les yeux ouverts. Je dessine, il photographie. Voilà. Et bien, ce sont ses rêves qu'on rencontre dans Les Trois Mousquetaires. Mais ses rêves ne lui sont pas propres. Ce sont au fond les rêves éternels de tous les jeunes depuis des temps immémoriaux. Et c'est ce qui explique que chacun se retrouve finalement dans ces trois romans.
Nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup Simone Berthière. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage « Dumas et les Mousquetaires, histoire d'un chef-d'œuvre » aux éditions De Fallois. Mais je conseille aussi à nos auditeurs d'aller lire Dumas directement puisque votre livre...
Lisez les Mousquetaires.
Voilà, exactement. Votre livre est une invitation à lire les Mousquetaires. Merci infiniment. Au revoir à tous et à toutes.
Merci. Merci à vous.